Il est 21h à Ouagadougou et à Bamako, 22h à N'Djamena. Bienvenue dans Salle Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus, le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida. Au Tchad, des organisations de la société civile lancent la coalition « Trop c'est trop » pour mieux défendre les intérêts de la population. En Mauritanie, deux militants anti-esclavagistes ont été emprisonnés. Enfin, selon les Nations Unies, la jeunesse est un véritable trésor pour les pays pauvres. Et nous terminerons l'émission par le Mali qui travaille à une meilleure égalité hommes-femmes. Mais auparavant, voici le bulletin d'information présenté par Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Claire Morin-Gibourg. Un kamikaze a fait exploser une voiture piégée dans la région autonome des Kurdes d'Irak, faisant 4 morts. L'explosion à Erbil s'est produite près d'un bâtiment du gouvernement. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de l'attentat, le pire enregistré dans cette région depuis 2013. Le président américain Barack Obama va présenter demain des mesures sur l'immigration qui pourraient offrir une régularisation provisoire à une partie des 11 millions de clandestins vivant aux États-Unis. L'allocution de Barack Obama est prévue à 20h, heure de Washington. Selon plusieurs médias, il doit annoncer que les parents d'enfants ayant la citoyenneté américaine ou la carte verte pourraient se voir offrir des papiers leur permettant de travailler légalement et d'être protégés contre une expulsion. Cela peut concerner jusqu'à 5 millions d'immigrés clandestins. Tournée européenne du vice-président américain Joe Biden en Ukraine, vendredi, il fera part des préoccupations des États-Unis concernant les violations de l'accord de Minsk qui a abouti au cessez-le-feu entre Kiev et les rebelles pro-russes de l'Est ukrainien. Durant cette visite de 5 jours, M. Biden doit se rendre également au Maroc et en Turquie. Et puis, une violente tempête de neige a fait au moins 7 morts dans le nord des États-Unis. Plus d'1,50 m de neige sont tombés en 24 heures en certains endroits, créant le chaos sur des routes et avec des voitures et autobus bloqués et des milliers d'Américains privés d'électricité.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Burkina Faso, Ebola. Dans l'actualité, la Banque mondiale réduit considérablement son estimation de l'impact économique de l'épidémie d'Ebola et le cas d'un jeune Indien suscite des interrogations. Camille Gros-Didier.
Ce jeune Indien, âgé de 26 ans, était censé avoir guéri de la fièvre hémorragique à virus Ebola avant de quitter le Libéria. Mais à son retour en Inde le 10 novembre, il a été placé en quarantaine à l'aéroport de New Delhi, des tests ayant montré la présence du virus dans son sperme. Quelque 45 000 Indiens travaillent en Afrique de l'Ouest, d'où les efforts intensifs de dépistage de la maladie qui, de l'avis des experts, serait difficile à contenir si elle se propageait au sous-continent indien. Par ailleurs, au plan économique, la Banque mondiale a reconnu que l'impact de l'épidémie d'Ebola sur l'Afrique de l'Ouest ne sera pas aussi dramatique qu'elle avait craint. En octobre, la Banque avait évoqué jusqu'à 32 milliards de pertes si le virus se propageait de manière significative en dehors de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Mais l'économiste en chef de la Banque mondiale, Francisco Ferreira, a déclaré à Johannesburg aujourd'hui que le coût de l'épidémie se situera probablement à entre 3 et 4 milliards de dollars.
Burkina Faso, après avoir été chef de l'État pendant 2 semaines, le lieutenant-colonel Isaac Zida devient chef du futur gouvernement de transition. L'officier burkinabé a été nommé Premier ministre au lendemain de l'investiture du président intérimaire Michel Kafando. Et puis, trêve humanitaire de 12 heures à Benghazi. Le cessez-le-feu a été annoncé ce mercredi par la mission de l'ONU en Libye qui dit avoir obtenu des différentes factions en conflit dans l'est du pays un répit pour permettre l'évacuation des civils des zones dangereuses. Le principal parti d'opposition nigérien accuse le parti au pouvoir de se servir de Boko Haram à des fins politiques. Lors de son premier meeting de campagne à Abuja ce mercredi, en vue des élections de 2015, le Congrès progressiste a accusé le PDP, le Parti démocratique populaire, de sacrifier des vies par pur égoïsme. Vous écoutez VOA Afrique, la suite avec Sahel Plus, Claire Morin-Gibourg.
Merci beaucoup Jean-Roger. « Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous ouvrons l'émission par le Burkina Faso. Après avoir été chef de l'État pendant 2 semaines, le lieutenant-colonel Isaac Zida a donc été nommé Premier ministre au lendemain de l'investiture du président Michel Kafongo. Il devient ainsi chef du gouvernement de transition de Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wanogo.
La nouvelle a peu surpris à Ouagadougou. À partir de son discours lors de la signature officielle de la charte de la transition, le lieutenant-colonel Yacouba Zida est devenu la coqueluche des nombreux jeunes à la base de l'insurrection populaire. Les appréhensions du départ, fondées sur le fait qu'il était le numéro 2 de la garde présidentielle de Blaise Compaoré, ont été levées quand il a qualifié le pouvoir de Blaise Compaoré avec des mots très durs comme arrogance, rapacité, méchanceté, égoïsme et surtout sa mise en garde aux anciens dirigeants qu'il invite à la repentance plutôt que d'avoir des velléités de semer le trouble au Burkina. À cette remontée dans l'estime des populations, il faut ajouter que le lieutenant-colonel Yacouba Zida a une certaine emprise sur les forces de défense et de sécurité. Après une insurrection populaire qui a mis fin à 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré sans aboutir à une guerre civile, revoilà le Burkina qui démontre qu'on peut être chef de l'État et devenir ensuite Premier ministre, comme le cas de Poutine en Russie. Mais la comparaison s'arrête là. Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et pour le moment, au Burkina Faso, la nomination du colonel Isaac Zida est bien reçue par la classe politique et notamment par l'opposition. Ablassé Ouédraogo est l'un des leaders de l'ex-opposition et il est président du parti Le Faso Autrement. Nous lui avons demandé si la nomination d'un militaire au poste de Premier ministre l'avait surpris.
Dans la charte, tous les Burkinabés, quelle que soit leur fonction, pouvaient être Premier ministre. Donc, pour le Burkina Faso, nous comprenons que c'est la recherche de la stabilité pour que la transition se déroule dans des meilleures conditions de paix sociale, de façon à ce que l'objectif ultime de la transition, qui est d'organiser des élections présidentielles et législatives à la fin de la transition, c'est-à-dire en novembre 2015, puisse être réalisé avec succès. Nous, au niveau de l'équipe du Burkina Faso, nous n'avons aucun problème avec cette nomination et nous considérons même que c'est un attelage au niveau de l'exécutif qui va être performant.
L'armée est-elle à ce point essentielle pour assurer la transition au Burkina Faso?
Non, l'armée est essentielle pour le pays, ce n'est pas seulement pour la transition. Vous savez que nous sommes au Sahel. La région du Sahel vit un moment difficile sur le plan sécuritaire. Et il vaut mieux avoir une armée à même d'assurer la protection du pays et d'assurer la sécurité des citoyens. C'est la fonction régalienne d'une armée républicaine. Donc, avoir les militaires dans le gouvernement, ça veut dire que nous travaillons dans l'unité nationale. Et comme je dis, Burkina Faso appartient à tous les Burkinabés.
Est-ce que le colonel Zida a les qualités requises pour être un bon Premier ministre, selon vous?
Oh, madame, vous savez que le poste de Premier ministre est un poste politique. Il doit bien être en mesure de gérer un gouvernement. Et d'ailleurs, il a fait la preuve de ses capacités de coordination pendant les 3 semaines quand il a assuré la gestion du pouvoir. Non, je pense qu'il a les capacités, il a les compétences pour pouvoir assumer cette fonction.
Les concertations pour le nouveau gouvernement sont en cours. Est-ce que vous êtes intéressé à faire partie de ce nouveau gouvernement?
Donc, personnellement, je ne pense pas que je ferai partie du gouvernement pour la simple raison que nous avons mis dans la charte que toute personne qui exerce fonction de Premier ministre ou membre du gouvernement ne peut pas être candidat aux élections législatives et présidentielles de 2015. Et comme j'ai l'ambition d'être candidat, donc je me réserve pour cette épreuve.
Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement. Au Tchad, des organisations de la société civile ont lancé hier la coalition Trop c'est trop, avec l'objectif principal de se prononcer sur les questions de gouvernance et de défendre les intérêts de la population tchadienne. La coalition dénonce pêle-mêle le problème des arriérés de salaire des fonctionnaires, la cherté du ciment et du carburant produits localement et les violations des droits humains, entre autres. Timothée Donangmaï a joint à N'Djamena le porte-parole de la coalition Trop c'est trop, Baldal Oïmata.
Nous avons lancé cette coalition parce que le Tchad aujourd'hui traverse des moments extrêmement difficiles. Nous avons estimé que, vu la situation actuelle, vu qu'une seule organisation ne peut pas faire face à cette situation de déliquescence de l'État, lancer donc cette coalition pour se prononcer sur des questions de gouvernance de notre pays.
Quels sont quelques éléments de cette situation tchadienne qui vous ont amené à lancer la coalition?
Si on regarde ce qui s'est passé déjà, vous avez la question du ciment de Baouré, où le chef de l'État avait fixé un prix et 2-3 mois plus tard, ce prix a été revu à la hausse. Nous avons la question de la sécurité de la vie de façon générale. Nous avons les multiples questions de violation des droits de l'homme. Et plus récemment encore, il y a la question des multiples retards de paiement des salaires. Il y a l'adoption d'un nouveau code sur le pluralisme qui est un code assez discriminatoire. Et donc tout cela fait qu'aujourd'hui, le peuple tchadien vit très mal. Les voix s'élèvent de gauche à droite sans que ça soit entendu, sans que ça ne trouve des échos favorables.
Pensez-vous que votre coalition sera entendue?
Nous espérons que ça va être entendu parce que nous avons les moyens d'action que les textes de la République nous confèrent. Surtout que c'est une grande coalition avec beaucoup d'organisations, avec les enseignants, avec les syndicats, avec les organisations de défense des droits de l'homme, avec les organisations des jeunes. Nous pensons quand même que nous sommes représentatifs et donc notre voix sera entendue.
Baldaï Omaïta, porte-parole de la coalition Trop c'est trop, joint à N'Djamena. En Mauritanie, deux militants anti-esclavagistes ont été inculpés et écroués à Nouakchott pour appartenance à une organisation non reconnue, moins d'une semaine après l'incarcération de plusieurs de leurs collègues à Rosso. Les précisions d'Eddie Sango.
Assad Oululeïd et Mme Mariam Minchek ont été inculpés lundi soir par un juge de Nouakchott. Les premiers ont été envoyés à la prison civile de Darnaïn, près de la capitale, et Mme Minchek à la prison d'arrêt pour femmes de Sebka, à l'ouest de Nouakchott. Tous les deux sont membres de la direction de l'ONG IRA, Initiative pour la résurgence des mouvements abolitionnistes. Le 14 novembre, 8 militants de cette ONG, dont son président Biram Ouldaoud Abeid, ont été écroués à Rosso, dans le sud du pays. Selon leur avocat, Maître Abderrahman Ouldei, ils sont accusés d'appartenir à une organisation non autorisée, des résistances à la force publique, d'incitation à l'insurrection et d'avoir organisé des rassemblements pour une propagande raciste. Ces arrestations font suite à des manifestations à Rosso et Nouakchott liées à une campagne de l'ONG IRA pour dénoncer l'esclavage et les expropriations des terres dont sont victimes les négros mauritaniens. Officiellement, l'esclavage est aboli en Mauritanie et depuis 2007, les personnes reconnues coupables de l'esclavagisme risquent jusqu'à 10 ans de prison, mais selon l'ONG, la pratique persiste.
La jeunesse est un trésor insoupçonné pour les pays pauvres. C'est la conclusion du dernier rapport du Fonds des Nations Unies pour la population qui constate que les pays en développement pourraient nettement améliorer leur productivité en investissant dans la jeunesse. Jean-Roger Bion.
Les jeunes sont souvent trop ignorés et les pays qui continuent de voir en eux un fardeau le font à leurs dépens. Le FNUAP assure que les pays qui investissent sérieusement dans l'éducation, les compétences et la santé des jeunes, y compris dans la santé sexuelle et reproductive, auront en retour d'énormes dividendes. 1,8 milliard de personnes dans le monde ont entre 10 et 24 ans. C'est un capital qui peut sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté pourvu que les gouvernements leur fournissent des emplois et renforcent leurs capacités, estime l'agence onusienne. Alena Hermitage, directrice au FNUAP à Genève, nous situe les enjeux pour l'Afrique.
If sub-Saharan Africa drew on East Asia's experience, adapted it to its local context and made...
Si l'Afrique subsaharienne s'appuie sur l'exemple de l'Asie de l'Est, l'adapte à son contexte en faisant des investissements similaires chez les jeunes, la région pourrait connaître son propre miracle économique avec une valeur ajoutée de 500 milliards de dollars pour ses économies chaque année sur une durée allant jusqu'à 30 ans.
Malheureusement, trop de gouvernements laissent leur jeunesse en rade. La majorité des jeunes qui vivent dans les pays sous-développés font face à la violence, à un manque d'éducation et d'accès aux soins de santé. Elena Armitage.
On estime à 120 millions le nombre de jeunes déversés sur le marché du travail chaque année. Le rapport du FNAP montre que les jeunes représentent déjà la moitié des chômeurs. Au cours de la révolution sociale, de plus en plus de jeunes aujourd'hui découvrent les inégalités, la discrimination et l'exclusion. Les jeunes femmes et les adolescentes rencontrent plus d'obstacles que les hommes et les garçons pour la construction de leurs capacités et ont du mal à saisir les opportunités en jouissant de leurs droits.
Le rapport du FNUAP présente un certain nombre de recommandations concrètes pour accroître l'investissement dans le renforcement des compétences et des connaissances des jeunes. Il appelle à élargir l'accès à la contraception, à créer plus d'emplois et à mettre les nouvelles technologies à la portée des jeunes.
Nous nous rendons au Mali pour terminer cette émission. Le pays réfléchit avec l'ONU Femmes à améliorer l'égalité hommes-femmes dans le pays avec l'aide des organisations de la société civile, du secteur privé, les partenaires techniques et financiers intéressés par la question du genre au Mali. Reportage de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La rencontre sous-régionale met l'accent sur les appuis d'ONU Femmes afin de matérialiser le rôle que les femmes pourraient jouer aux côtés des hommes pour le développement socio-économique. Rachel Mian, représentante d'ONU Femmes au Cameroun.
Nous espérons que vous arriverez à mieux appréhender tout le potentiel de la thématique genre pour l'efficacité et la performance de votre mission et mesurer l'ampleur de votre tâche pour la promotion des droits des femmes au Mali.
Le travail des femmes se fera sur la base du rôle que pourra jouer le ministère de la promotion des femmes en sa qualité de promoteur de la politique nationale genre au Mali. Sangaré Oumouba, ministre de la promotion des femmes, de l'enfant et de la famille.
La politique nationale genre, adoptée en 2010, vise à engager l'État et toute la société à améliorer l'impact des politiques publiques afin que les Maliennes et les Maliens puissent contribuer au bien-être collectif tout en étant des citoyennes et citoyens égaux en droits et en devoirs.
La question des finances ne sera pas occultée si l'on sait que plus de 15 départements ministériels sont ciblés pour matérialiser la politique du genre au Mali. C'est ce qui ressort d'une étude menée par le groupe de suivi budgétaire au Mali. Souleymane Diallo, consultant.
Qu'est-ce qu'il faut pour permettre à l'État d'étendre à la réduction des inégalités entre la femme et les hommes et l'homme, entre les filles et les garçons, entre la couche, en tout cas les différentes couches défavorisées et les couches relativement favorisées? C'est pour aller à l'équilibre et atteindre un développement sûr et durable. Au total, le gouvernement du Mali a alloué 323 milliards de francs CFA au ministère chargé de promouvoir le genre, montant représentant près de 21% du budget général d'État de 2014.
Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Lionel Gaïma. À la technique, Mireille Dubinsky. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Pedro Kouyaté et sa Love Song. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique, ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Djarabi. 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 Jarabi, Fema Jarabi bo, Fema Jarabi bo, Fema Jarabi bo, Fema Jarabi bo, Fema Jarabi bo. Fema Jarabi bo.